Bonjour encore à ceux que j'ai pas salués, puis les autres bonjour quand même. Voilà, ça fait plaisir de vous voir en ce dimanche de Pentecôte. Et apparemment c'est un jour férié demain, pas en Valais, c'est pour ça que je viens dans le canton de Berne. Non, il y a trop de fêtes, trop d'autres fêtes qui prennent la place. Sans ça, on serait toute l'année en congé. Voilà. Mais, petite parenthèse fermée, j'aimerais évidemment partager sur un thème qui est en rapport avec le Saint-Esprit et aussi la Pentecôte. Est-ce que vous croyez aux bonnes habitudes ? Ouais, je pense que c'est pas mal. Hein, les bonnes habitudes sont des choses ancrées en nous, qui sont comme gravées, qu'on fait tout le temps, même sans y penser, peut-être. Des choses qui sont là, qui font partie de notre quotidien. On ne se rend pas forcément compte qu'on les fait, parce que c'est des bonnes habitudes. Des bonnes habitudes à faire, des automatismes. C'est devenu un peu notre style de vie. Par exemple, pour certaines personnes, la reconnaissance, d'être reconnaissant, c'est une bonne habitude. Je n'ai pas dit d'être ronchon, parce que ce n'est pas une bonne habitude, mais la reconnaissance, la joie aussi. On voit des gens, ils sont joyeux. La prière, ça peut être une bonne habitude, évidemment. La méditation de la parole de Dieu, c'est une bonne habitude. Se brosser les dents, c'est une bonne habitude aussi, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont comme ça, des bonnes habitudes qui sont là dans notre vie. Billy Graham, qui a été un évangéliste bien connu, a dit « Si l'âme n'est pas nourrie et exercée journellement, elle s'affaiblit et s'atrophie, elle reste mécontente, troublée, inquiète. Dieu seul satisfait complètement, parce que l'âme a été faite pour Dieu, et sans lui, elle est inquiète et dans un secret tourment. » Si l'âme n'est pas nourrie quotidiennement, eh bien, il y a des choses qui sont plus difficiles à vivre. Les bonnes habitudes. Aujourd'hui, on va parler de l'importance d'être rempli du Saint-Esprit. Ça aussi, c'est une bonne habitude. Et la Bible nous y invite. Dit autrement, parce que voilà, ne prends pas le risque de perdre l'onction de Dieu. Ce sera le titre de mon message. Ne prends pas le risque de perdre l'onction de Dieu. L'importance d'être rempli du Saint-Esprit ce week-end de Pentecôte, oui, on s'en souvient parce que c'est une date sur le calendrier. Pour certains, comme je vous ai dit, c'est même un jour férié qui se prolonge le lundi parce que Pentecôte n'étant pas suffisant, il faut se reposer de la présence de Dieu le lundi. Donc on a congé le lundi parce que... c'est vrai, Pentecôte, ce n'était pas le lundi, c'était le dimanche, peu importe. Mais bon, bref, l'importance d'être rempli du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est en mouvement dans notre vie, ou est appelé à être en mouvement, et dans Genèse 1 à 2, si on prend tout au début, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Aujourd'hui encore, ce même Esprit veut se mouvoir au-dessus des eaux, comme au commencement. Tant qu'il n'y a pas l'Esprit qui est là, qui se déplace, et la Bible nous le dit aussi dans les lettres de Paul, eh bien que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. S'il n'y a pas plus qu'une bonne habitude, mais une bonne présence dans nos vies, eh bien, quelque chose ne peut pas être en mouvement. Et là, si la terre a pu être créée, si des choses ont pu être créées sur cette terre, eh bien, c'est parce que justement, il y avait l'Esprit de Dieu. Et dans l'Église, ici à Bienne, dans toutes les églises du monde, dans nos vies, eh bien, il y a besoin d'avoir ce Saint-Esprit qui se déplace, qui est là, en mouvement sur nos vies. Il y a déjà 3 bénédictions qu'on va voir. La voix du Père qui se fait entendre. La deuxième bénédiction, la lumière qui jaillit aussi dans les ténèbres. Et la troisième bénédiction, un jour nouveau qui se lève. Et déjà, ça c'est mon premier point. Deuxième point qu'on verra, eh bien vous le découvrirez tout à l'heure, c'est des obstacles aussi. Et troisième point, la bénédiction qui suit l'acte d'obéissance. Mais déjà, trois bénédictions qu'on trouve au travers de la parole de Dieu et au travers du Saint-Esprit. La voix du Père qui se fait entendre. Luc 3, 21-22 nous dit « Tandis que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et l'Esprit de Dieu descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Il vint une voix du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » Donc il y a cette douce voix du Père qui est là et qui nous parle. « Tu es mon Fils bien-aimé. » C'est déjà une bénédiction. Une voix aussi du Père qui nous guide dans Actes 16, 8 à 10. Il est écrit, ils traversèrent donc la Mysie et descendirent au port de Troas. Là, Paul eut une vision au cours de la nuit. Un Macédonien se tenait devant lui et le suppliait, viens en Macédoine et secours-nous. À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous remettre en Macédoine, à nous rendre en Macédoine, car nous avions la certitude que Dieu lui-même nous appelait à y prêcher la bonne nouvelle. Donc une voix du Père qui se fait entendre et qui dit « Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » Deuxième chose, une voix qui nous guide. Paul, il a une vision d'un homme qui le supplie « Viens en Macédoine. » Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, eh bien le Saint-Esprit peut vous parler ? Amen. Et une autre parole aussi, c'est une parole d'encouragement. Peut-être certains, ce matin, vous avez besoin d'être encouragés. Dans le livre de Josué, mais pas seulement, mais j'ai pris cet exemple, dans Josué 1, 5 à 9, il est dit « Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Je suis avec toi. » Est-ce que quelqu'un a besoin d'entendre ce matin « Je suis avec toi » ? Verset 6, « Fortifie-toi et prends courage. » Je crois qu'il n'est pas, je l'ai zappé le verset 6. « Fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Fortifie-toi. Verset 7, « Seulement fortifie-toi et bon courage. » Une répétition encore. « Fortifie-toi en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse. » Mon serviteur, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, tu méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Vous savez, ce n'est pas un hasard si on s'encourage aussi à lire le Nouveau Testament. Là, c'est dit au verset 8, ce livre de la loi. C'était les commandements, c'était le livre de la loi. Maintenant, on a une panoplie un petit peu plus grande, on a le Nouveau Testament. Mais on pourrait dire, la parole de Dieu ne s'éloignera pas de ta bouche. Et je vous encourage à persévérer dans la lecture du Nouveau Testament tout au long de cette année, selon le programme aussi. Il y a aussi une richesse de lire ensemble les mêmes textes, au même moment. On peut grandir en même temps. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. On pourrait dire la parole de Dieu ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Et si on met en pratique la parole de Dieu, mes amis, eh bien, il y a des choses qui se passent. Par contre, si on ne la met pas en pratique, c'est difficile de s'attendre à ce que Dieu nous exauce, à ce que Dieu nous bénisse. À ce que, eh bien, on soit sous la faveur de Dieu. C'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Là encore une fois, ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Amen. Partout où tu iras, quelle promesse. Donc, la parole de Dieu, on voit ces trois bénédictions, déjà cette voix du Père qui se fait entendre, qui témoigne, eh bien, on est un fils bien-aimé, une fille bien-aimée. On l'a entendu dans l'introduction aussi au travers de la lecture du psaume. Elle nous guide, elle nous encourage. Deuxième chose, la lumière jaillit dans vos ténèbres. Dans Genèse 1, verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Là encore, cette lumière qui est là, même dans vos vies, peut-être qu'il y a besoin de la lumière de Dieu. Il y a peut-être besoin de la lumière de Dieu dans certains endroits de vos vies. En tout cas, dans ma vie, sans arrêt, je suis appelé aussi à me dire, mais est-ce que je laisse Dieu m'éclairer partout ? Est-ce que je lui laisse le droit de mettre sa lumière dans tous les endroits de ma vie ? Peut-être que vous êtes réveillé oppressé ce matin, comme environné par des ténèbres, dans des soucis, des fardeaux, soucis de travail, soucis de chômage, soucis familiaux, soucis avec des enfants ou avec des parents, des grands-parents, différents soucis du lendemain. Tournez-vous sans tarder vers la parole de Dieu. Remplissez votre bouche de reconnaissance et de cette lumière de joie, de paix qui veut jaillir aussi dans votre quotidien. Moi, je le crois sincèrement. Combien de fois la parole de Dieu, alors qu'on la lit comme ça, on se dit « à quoi bon ?» Et elle nous éclaire. C'est juste ce qu'on avait besoin pour retrouver courage. Fortifie-toi et prends courage. Un jour nouveau se lèvera sur vous, Genèse 1, versets 4 et 5. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le jour. Dieu dit et la chose arrive. Dieu dit. Dieu vit que la lumière était bonne, Dieu sépare la lumière des ténèbres. Et aujourd'hui encore, dans nos vies, on est appelé à se séparer de toute forme de ténèbres et à laisser cette lumière, parce que Dieu dit que la lumière soit. S'il y a des choses cachées, sachez que rien n'échappe au regard de Dieu. On a tout intérêt à mettre les choses dans la lumière. Toute chose finit par venir à la lumière, toute chose finit par se découvrir. On peut cacher des choses aux humains, mais Dieu voit tout. Dieu sait tout. Pas pour nous accuser, mais pour justement mettre sa lumière bienfaisante, guérissante, restaurante. Et ce jour nouveau peut être le vôtre aussi aujourd'hui si vous prenez la décision de marcher dans la communion du Saint-Esprit. Dans Éphésiens 5, versets 18 à 21, qu'on peut voir maintenant, Éphésiens 5, 18 à 21, il est écrit « Ne vous enivrez pas de vin ». Cela vous conduira à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Ainsi, vous vous encouragerez mutuellement par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants, vos psaumes, à tout moment et pour toute chose. Vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et par respect pour le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. » Ce petit texte, l'apôtre Paul nous dit d'être constamment rempli du Saint-Esprit. On peut être rempli de plein de choses. Là, il dit, ne vous enivrez pas de vin, mais on peut être rempli de plein d'autres choses. Ce n'est pas forcément l'alcool. On peut être enivré par certaines joies, certains plaisirs, certaines choses qui sont finalement, qui peuvent devenir toxiques dans nos vies. Alors, je ne suis pas en train de dire que toutes les joies, tous les plaisirs sont toxiques, bien au contraire. Mais certaines choses peuvent prendre la place de Dieu. Être constamment rempli du Saint-Esprit, nous dit l'apôtre Paul dans ce texte. Et c'est le privilège que tout enfant de Dieu peut réclamer de son Père. C'est un état indispensable pour demeurer en Christ, garder ses commandements et porter aussi du fruit. Et ce commandement s'adresse à tout croyant. Et la promesse de Dieu, sa puissance, sa plénitude est véritablement à la hauteur de l'ordonnée. Souvenons-nous en fait que lorsque Paul transmet aux Éphésiens le commandement d'être rempli du Saint-Esprit, il avait déjà reçu l'Esprit. Ils avaient déjà reçu l'Esprit. Ce n'était pas quelque chose de nouveau. Ils avaient déjà, la source était déjà en eux. Mais Paul leur dit, mais il y a besoin de le refaire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ces bonnes habitudes. J'ai volontairement dit se brosser les dents. Parce qu'on pourrait dire, oui, mais brosser les dents, je l'ai déjà fait il y a 6 mois. Allez dire ça à votre dentiste, vous verrez. ou l'hygiéniste dentaire, quand vous allez vers elle ou vers lui, je ne sais pas, vous vous brossez les dents ? Oui, c'est quand la dernière fois ? Régulièrement quand même, ça fait, ouais, je pense, il y a 6-8 mois. ça nous fait sourire, mais la présence de Dieu, des fois, c'est à renouveler constamment, comme le ménage, la poussière, elle attend pas, c'est incroyable, ça pousse tout seul, hein. Ça pousse tout seul, et il y a toujours besoin de patience. On pourrait dire, mais j'ai nettoyé il y a 3 ans, c'est bon. Il n'y a plus personne qui va venir chez nous, là. Jésus a dit dans Jean 7, 38, Jean 7, tu peux mettre, voilà. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Un fleuve, on ne peut pas trop l'arrêter, hein. Vous avez vu à Blaton, c'était pas un fleuve, c'était un petit ruisseau comme ça qui coule. Bon, il y a pas mal de mètres de cailloux, de glaciers qui tombent, ça fait barrage. On peut pas trop l'arrêter. Hein. Après, il faut que ça descende, autrement ça craint une fois que le barrage saute. Non, c'est ces fleuves d'eau vive qui se renouvelle, autrement ça devient un lac ou un étang et ça stagne. Et pour que la source au-dedans de nous jaillisse et se répande en dehors, il faut qu'elle soit sans cesse alimentée par Jésus et par la parole de Dieu. Et c'est en lui que se trouve la source de vie. C'est par une foi simple en Christ, dans une communion continuelle avec lui, que ce baptême de l'Esprit continue, se renouvelle et qui va jaillir et déborder. On a besoin. Lors des temps de louange, d'adoration, vous gênez pas de louer Dieu. C'est aussi des moments où on s'exerce ensemble, où on s'encourage ensemble à louer Dieu, pour que toute la semaine aussi, eh bien, on puisse continuer de louer Dieu. N'attendez pas le dimanche, mais le dimanche, eh bien, c'est aussi un moment où on est boosté par la présence des autres, par des musiciens peut-être lorsqu'il y en a, par d'autres personnes qui adorent, qui louent. En esprit et en vérité. Soyez remplis de l'esprit, et c'est là le devoir et le privilège de tout croyant, nous dira l'apôtre Paul. Mais avant de parler de cette nécessité de plénitude, Paul avait pris soin de recommander aux Éphésiens aussi de se séparer de tout ce qui ferait obstacle à la plénitude. Et on va voir quelques obstacles. Ici, maintenant, je les ai mis un petit peu en surligné. Les obstacles, Éphésiens 4, 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Ça, c'est un obstacle à la plénitude. N'attristez pas. On peut attrister le Saint-Esprit parce que c'est une personne. Bien souvent, on en a fait une puissance, juste un souffle, quelque chose dont on pourrait se servir. Non, c'est une personne. Père, Fils, Saint-Esprit. C'est une personne. Comme Jésus est une personne, il n'y a pas trois personnes. Dieu étant cette personne, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est Dieu, et on peut l'attrister, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, waouh, qui peut dire qu'il n'a jamais été amer? Que toute amertume, animosité, colère, clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, adressez-vous à Dieu qui a inspiré l'apôtre Paul. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme les enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité, la soif de posséder, hein, toujours plus, ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. C'est dit, mais ça ne doit même pas faire partie de notre vocabulaire. Dit autrement, soit même pas nommé, on ne devrait même pas en entendre parler. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques à double sens. choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce, la reconnaissance. Incroyable. Enfin, ou pas. Et j'aurais pu commencer au verset 27, juste avant ce texte, il n'est pas affiché, mais c'est dit « Ne donnez aucune prise au diable », juste avant. Parce que tout ça, eh bien, ça donne des prises au diable. Et l'apôtre Paul commence au verset 27, « Ne donnez aucune prise au diable ». Finalement, aucune possibilité. Que le voleur cesse de dérober, qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains pour qu'il ait de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. Ne donnez pas de prise au diable. Et ça, c'est des obstacles à la bénédiction et à ce qu'on entend Dieu, et à ce que ce jour nouveau se lève. On a vu trois bénédictions, on a vu des obstacles à la bénédiction, et on verra la bénédiction aussi qui suit l'obéissance. Dans Actes 1 à 8, il est écrit « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves en se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume. » Et on arrive au verset 8. « Mais vous recevrez une puissance. » Et vous le connaissez ce verset, vous l'avez déjà entendu des dizaines de fois certainement. « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Vous recevrez une puissance. On a besoin de cette présence, de cette puissance. Et suite au baptême de Jésus, eh bien, on lit encore dans Luc 4, versets 1 et 2, et Luc 4, 14, « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand la période fut passée, il eut faim. » Vous imaginez la scène, Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Et c'est dit que Jésus a été ensuite rempli du Saint-Esprit. Et il revint du Jourdain, rempli du Saint-Esprit. Est-ce que vous pensez que le Saint-Esprit est arrivé chez Jésus à ce moment-là? Bien sûr que non. Il était déjà rempli du Saint-Esprit. Mais là, il a montré le chemin, il a obéi et il a été comme une nouvelle, comme un renouvellement, alors qu'il avait déjà le Saint-Esprit. Verset 14, « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée après avoir été tenté aussi par le diable, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. » Là encore, c'est précisé, Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Ça ne vous choque pas? Ça ne vous surprend pas? Alors que le Saint-Esprit était bien évidemment déjà en Jésus, vu qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit. Ce n'est pas parce qu'il est venu sur la terre qu'il était moins Dieu. Il était homme, mais il était en même temps Dieu. Et là, il y avait encore ce renouvellement du Saint-Esprit. Alors que Jésus s'apprêtait à prêcher ses premiers sermons, il a été baptisé, il n'y a pas grand-chose qui se sont passés avant, on ne sait pas grand-chose de lui avant, si ce n'est qu'il a cet épisode quand il a été au temple à l'âge de 12 ans. Mais là, à 30 ans, il se fait baptiser, il est rempli du Saint-Esprit, il va dans le désert, il est tenté par le diable, il est rempli du Saint-Esprit et il retourne en Galilée avec la puissance de l'Esprit. Alors Jésus s'apprête à prêcher ses premiers sermons publics, il se met à part. En se rendant dans le désert pour y prendre un temps de jeûne et de prière, et pour être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Moi, ça me surprendra toujours. Si Jésus a besoin de ces temps à part avec son Père, est-ce que nous, on n'en a pas besoin? Est-ce qu'on est supérieur à Jésus? Bien sûr que non. Je crois qu'on a besoin de ces temps mis à part pour recevoir ce revêtement de l'esprit afin de porter davantage de fruits pour la gloire de Dieu. Et dans le cas de Jésus, il n'était pas sans l'esprit avant son baptême, mais la venue du Saint-Esprit l'a publiquement investi dans cette phase active de son ministère. Et Paul va exhorter les chrétiens de Corinthe à ne pas rester dans une attitude d'immobilité. Ils doivent être zélés pour les dons spirituels les plus utiles et rechercher avec ardeur les dons de l'Esprit. Vous pouvez lire ça dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14, etc. Et bibliquement, lorsqu'on s'engage dans les eaux du baptême, on se met clairement à la disposition de l'action de l'Esprit dans son revêtement de puissance. S'il y a des gens qui ne sont pas encore baptisés, c'est possible de demander de l'être. Et si vous êtes baptisé aussi par immersion en tant qu'adulte ou jeune adulte, souvenez-vous que ce baptême vous engage ou vous a engagé. Dieu nous demande de nous mettre à chaque instant à la disposition du Saint-Esprit afin d'être transformé dans notre caractère et aussi équipé. Acte 1:8, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Ce n'était pas juste une fois d'être témoin. C'est témoin aujourd'hui, témoin demain, témoin après-demain, témoin après-après-demain, etc. Und so weiter, und so weiter. Certains pensent avoir reçu, tout reçu, ils veulent vivre juste leur vie tranquille. C'est pour moi, je suis chrétien pour moi. C'est souvent ce qu'on entend pour des gens qui ont une confession, mais qui n'ont pas une relation, je suis catholique, protestant, mais c'est pour moi, c'est intérieur, c'est personnel. Ben non, la foi, ce n'est pas personnel. C'est une foi qui se partage aussi, qui se partage. Et c'est clairement l'attitude regrettable de l'Église de Laodicée, dénoncée dans Apocalypse 3, 17 et 18, « Je suis riche », c'est l'Église qui se dit « Je suis riche ». Je me suis enrichi, j'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Parfois, on croit avoir tout ce qu'il nous faut, parce que, en apparence, tout baigne, il n'y a pas de souci. Verset 18, « Je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. » Waouh ! Ça, c'est dit à l'Église, enfin, ou les églises qui croient, ça baigne, ça roule. Finalement, Dieu, on a besoin de faire moins d'efforts pour être rempli de lui, parce que ça va tellement bien. Et tout à coup, ça descend. Et cette puissance, est-ce qu'on en a soif ? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous et vous serez mes témoins. Ce n'est pas juste un fait historique qui s'est passé lorsqu'on s'est converti, qu'on a accepté Jésus-Christ, mais c'est une bonne habitude de se dire « mais j'ai besoin d'être rempli, renouvelé dans le Saint-Esprit ». Est-ce qu'on demande avec persévérance le matin, le soir, ou « mais Seigneur, remplis-moi ». C'est dur mon job, c'est dur avec ses collègues, c'est dur avec mes parents, c'est dur avec mes enfants, c'est dur avec mes ados, c'est dur avec... Peu importe. C'est dur avec telle personne, mais j'arrive pas à la supporter. Ça nous fait sourire, mais honnêtement, ça peut nous arriver. Priez que le Saint-Esprit vous renouvelle, vous donne l'amour, vous donne la capacité d'aimer même ceux qui ne sont pas aimables, de pardonner même à ceux qui sont pas forcément bons. Pensez à Jésus, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font à la croix. Moi, j'aurais été avec lui, j'aurais cligné des yeux, puis pouf, ils étaient cramés. Mieux qu'un film d'action. Mais soyons honnêtes, ça nous fait sourire, mais Jésus, il a eu autre chose comme langage. Alors, voilà ce à quoi je nous engage et je me mets dans le panier, bien évidemment. En conclusion, donc, on a vu trois bénédictions. Ces bénédictions, et on peut en rajouter, vous pouvez en rajouter à souhait, ce n'est pas exhaustif, hein, rassurez-vous. C'est la voix de Dieu qui se fait entendre, « Tu es mon Fils bien-aimé ». C'est cette lumière qui brille dans nos ténèbres. Parfois, il y a des zones d'ombre dans nos vies. C'est un jour nouveau qui se lève aussi sur nos vies. Et ce baptême, c'est appelé à devenir comme un jour nouveau, tandis que le peuple se faisait baptiser, Jésus fut baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe et il vint une voix du ciel, « Tu es mon fils bien-aimé, objet de mon affection. » Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Deuxième chose, après ces trois petites bénédictions, mais il y en a plein d'autres, petites mais avec une valeur incroyable, c'est les obstacles. Vous pouvez les relire dans Éphésiens 4 et 5. Les obstacles. On peut attrister le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit est attristé, eh bien, il n'a plus trop envie d'agir dans nos vies. Il y a ces choses-là, et à chacun de dire, « Mais Seigneur, je ne veux pas être comme ça. Ces choses-là, tu dis que ce n'est pas bien. Seigneur, aide-moi à m'en débarrasser. » Et si ça colle trop à vos baskets, il y a d'autres croyants. On est là aussi à disposition avec les responsables de l'Église pour prier avec vous, pour vous. Parce que l'erreur... Ça serait de continuer de cacher certaines choses et de dire « mais non, c'est trop grave, je ne peux rien dire ». Et puis de le garder, puis de le traîner encore 5 ans, 10 ans. Mais dire mais ce truc-là, c'est plus fort que moi, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Demandez la prière, afin que vous en soyez déliés. Et la troisième chose qu'on a vue ce matin, c'est cette bénédiction qui suit l'acte d'obéissance, qui suit le baptême, mais aussi qui suit tous nos actes d'obéissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Et c'est pour aujourd'hui. Ce n'est pas juste un fait historique. C'est aujourd'hui encore. Lorsqu'on est dans l'obéissance, il y a le Saint-Esprit qui est sur nos vies aussi. Et on peut être des témoins. Ce n'est pas dit, vous serez riche, vous aurez une belle maison et vous ferez des belles vacances à Hawaï. Non, c'est dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et Jésus a commencé son ministère à 30 ans, après son baptême, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, et cette promesse, elle est pour nous tous aussi. Son désir, c'est qu'on puisse être revêtu de cette puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui encore, viens dans sa présence, en lui demandant de te couvrir de son onction pour que tu sois un témoin de sa gloire dans ton travail. Même si tes collègues sont imbuvables, tu sois un témoin. Parce que le danger, ce serait de devenir imbuvable comme eux. Et que finalement, on dise, non, celui-là qui se dit chrétien, ben, sa foi, j'en veux pas. Éphésiens 5, 18, que je vous ai lu tout à l'heure, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit Saint. » C'est le titre de mon message et en même temps ma conclusion, « Ne prends pas le risque de perdre l'onction de Dieu. » Ne prends pas le risque. Là, c'est possible en attristant le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, c'est possible de dire, « Mais je veux être renouvelé. Je veux ce revêtement de puissance et d'amour de Dieu. » Amen. Gloire à Dieu. Ben Jésus, merci pour ton Église réunie ici dans ces lieux. Et je te prie vraiment que ces lieux soient visités par ton Esprit, que nos vies soient visitées par ton Esprit, que ces bénédictions, Seigneur, soient déposées sur nos vies à tous. Seigneur, que tous ces obstacles soient comme rendus inefficace à la croix, Seigneur. Qu'on puisse déposer, Seigneur, tout ce qui peut-être nous retient captifs ou tout ce qui attriste ton esprit. Seigneur, qu'on soit dans ce processus, Seigneur, de restauration, de guérison, de délivrance. Puis, Seigneur, donne-nous cette soif afin, Seigneur, de désirer, Seigneur, non pas être rempli de plein de choses, Seigneur, mais qu'on soit débordant de ton esprit. C'est vraiment ma prière, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.